Sweet Home Chicago, voilà, c'est la fin de cette première heure, début de la deuxième, numéro 1105 aujourd'hui, avec Muddy Gurdy, vous l'avez compris. Muddy Gurdy qu'on vient d'entendre à travers ce fabuleux boogie, je sais pas comment elle fait, il va falloir qu'on lui pose la question tout à l'heure. En interview dans quelques minutes, juste le temps d'écouter un autre titre, ça s'appelle « Tell Me You Love Me ». On t'aime, tiens. Dis-moi que tu m'aimes. Tell me you love me. Extrait de cet album Homecoming. Voilà, cette interview dans Sweet Home Chicago, ça va être une première. Va se faire en complice avec la complicité de Dan Zerotti de Moonshine Blues. Bonjour, Dan. Ah, ça va être mieux avec le micro, excuse-moi.
Oui, je me sens.
C'est voilà. Quand même mieux avec le micro.
Merci. Bonjour Marc, ravi d'être dans cette émission.
Ben écoute, voilà, puis tout à l'heure, dans un petit peu moins d'une heure, ce sera la dixième de Moonshine Blues.
Oui.
Voilà, une émission qui a démarré fin décembre sur le 666. Moi, je suis très heureux que tu sois là, d'abord, pour plein de raisons. Et puis que tu fasses à nouveau du blues par rapport à la région où tu étais avant. C'était le cas avec les Baby Quiz. Quels sont,
Oui, j'ai changé un petit peu d'émission et forcément, enfin, de région et forcément d'émission. Mmh. Je suis très contente aussi de faire cette émission sur le 666.
Très, très belle émission à propos de Sean Costello, en tout cas.
Oui, hein? à deux aussi, hein, ouais. À deux voix aussi avec toi.
Très sympa. Et on est au téléphone avec Tia. Bonjour Tia.
Salut à tous les deux.
Ouais. Bonjour Tia.
Tu es en train de te dire, mais ils vont causer entre eux combien de temps comme ça.
Non, mais je vous écoute. Vous avez l'air en pleine forme et très heureux, donc ça fait plaisir à entendre.
Alors on est en pleine forme, exactement, c'est le mot. Effectivement. Tia, je crois que tu es un invité, on lui fait un petit coucou. C'est Eric Douady qui est chez toi, c'est ça?
Oui, j'ai écourté le couscous pour moi pour venir vous parler.
Salut Eric.
Mais je retournerai manger la mousse au chocolat avec eux après.
Très bien, bah oui, il ne s'agit pas d'avoir préparé ça pour rien. On est en direct de. Allez, Clermont-Ferrand ou les alentours?
Oui, vraiment, juste à côté.
À côté de Clermont-Ferrand. Très heureux de t'accueillir. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on ne s'était pas parlé, parce que à propos du dernier album, ça n'avait pas été le cas. Il y avait une interview il y a quelques années maintenant, il faut bien parler comme ça, à propos de Hypnotic Wheels. On s'était parlé à propos de Tiara and the Passion Wolf. Mais je pense quand même aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore à fond. Peut-être on pourrait revenir sur tes débuts, tes premiers groupes. Est-ce qu'on peut revenir sur tes débuts musicaux, Tiara?
Oui, alors moi je suis chanteuse et guitariste. J'ai commencé à la guitare quand j'avais 6 ans, donc il y a pas mal d'années maintenant. Et puis après la guitare, on va dire plus classique, je suis passée à la guitare électrique vers l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le blues et que je suis tombée totalement amoureuse et ça m'a complètement chamboulée. Découverte, donc voilà, pour un peu situer. Et donc j'ai commencé à tourner avec mon groupe en 2002.
2002, voilà, c'était il y a 3 semaines, 1 mois, quoi. Ça reste récent. T'as été éveillé au blues, plus particulièrement cette musique-là. Comment t'es tombé dans la marmite, j'ai envie de dire.
Alors, quelque chose qui va parler aux auditeurs, parce que moi j'ai beaucoup écouté les émissions de radio de Patrick Verbeek.
Oui. De quoi je vais me plaindre.
Voilà, donc j'enregistrais tout sur des cassettes audio, j'en ai encore plein d'ailleurs, en notant les titres en yaourt, parce que je ne comprenais pas tout l'anglais. Mais c'était génial son émission, parce qu'il avait souvent des invités, des musiciens qui étaient en tournée, qui venaient le voir. Il avait plein d'anecdotes, donc j'ai commencé comme ça. Puis petit à petit aussi en allant voir des concerts, quand je pouvais aussi sortir. Voilà, c'est le live quand même aussi, le fait de voir les bluesmen sur scène, c'est vraiment c'est la chose la plus importante en fait.
C'est une très bonne école, hein, effectivement, d'aller voir les musiciens dans leur jus, j'ai envie de dire, c'est-à-dire là où un musicien est fait pour, c'est-à-dire la scène, c'est ça, hein.
Mais oui, c'est ça. Et puis le lien direct, en fait, tout ce qu'on aime dans le live, le fait qu'il y ait des interactions avec le public, les personnages aussi qu'on voit sur scène, certains qui racontent plein d'histoires. Donc c'est super intéressant.
Mais par rapport aux personnages, par rapport aux artistes qui t'ont plu, quelles sont les formes de blues, les artistes séminaux qui t'ont le plus influencé au fil de ton début de carrière, on va dire, tiens?
Alors, il y en a beaucoup qui m'ont influencé, qui étaient malheureusement déjà décédés, mais que j'ai beaucoup écouté en disque, comme Freddie King, Magic Sam, Eddie Taylor. Et puis aussi, tu sais, les tournées Chicago Blues Festival, oui. Aussi, avec tout un tas d'artistes. Ça, c'était super. Et oui, voilà, c'est difficile de donner quelques noms comme ça, parce que, évidemment, il y a tellement, le blues est tellement riche que citer quelques noms, bon, c'est pas toujours évident. Donc, ceux auxquels je pense par rapport à la guitare, c'est ceux-là en tout cas.
C'est ceux-là qui t'ont mis le pied à l'étrier. Il y a eu plusieurs formations, plusieurs groupes. Tu parlais de ton propre groupe dès 2002, Tiara and the Passion Wolves. Après, il y a eu Hypnotic Wheels. Dan a une question à propos de ça.
Oui, alors pourquoi tu as eu un groupe qui s'appelait Hypnotic Wheels et après tu as changé de nom? Quelle est l'origine de ce changement de nom du groupe?
Oui, alors en fait, le début de Muddy Gurdy, effectivement, s'appelait Hypnotic Wheels. On a fait un premier album en 2014, et puis quand on est parti faire notre deuxième album dans le Mississippi, on avait appelé le projet Muddy Gurdy Mississippi Project, quelque chose comme ça. Et en fait, le fait d'avoir branché la vielle à roue dans un petit ampli à lampe et d'avoir développé un son un peu plus muddy, quoi, un peu plus crado, qu'on va dire, on s'est dit, mais le nom convient encore mieux au trio. Et puis, hypnotique, c'était un terme qui revenait énormément dans des descriptions de groupe ou des choses qui étaient un petit peu différentes. Et on s'est dit, mais Muddy Gurdy correspond maintenant plus au son qu'on a aujourd'hui, ce qu'on avait développé depuis Mississippi. Donc, on a gardé ça, en fait. Muddy, c'est pour la référence boueuse, mais aussi la référence évidemment Muddy Waters. Et puis Gurdy, en fait, c'est la fin du mot hurdy-gurdy, c'est la vielle à roue en anglais.
On parlera tout à l'heure de votre rencontre à tous, le groupe Muddy Gurdy justement, mais j'ai une série de questions, tiens, à propos des États-Unis et notamment ce voyage que vous avez effectué tous en 2017. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'aller aux États-Unis? Est-ce que c'était la volonté d'aller à la rencontre des gens, au plus profond de leur environnement et de leur culture, pour d'autres raisons complémentaires?
En fait, avec Hypnotic Wheels, on avait travaillé sur différents titres, des reprises de blues. Et on s'était rendu compte que ce qui fonctionnait vraiment bien avec la vieille Larousse, c'était le blues du nord du Mississippi, ce qu'on appelle le North Mississippi Hill Country Blues. C'est des formes de blues qui sont très hypnotiques, justement, qui tournent beaucoup sur un accord. Et ça fonctionne super bien avec l'instrument, avec les particularités de la vieille Larousse. Donc, on avait déjà commencé un peu à travailler sur des titres de Harold Burnside ou Jesse Mayhemfield. Mmh. Et c'est Marc Glomo, donc, qui est à l'origine de ce projet, qui nous a dit, mais il faut qu'on aille enregistrer là-bas, qu'on amène la vieille Larousse dans cette région-là. Donc, c'était surtout pour créer une rencontre de culture plutôt que d'aller pour une caution ou quelque chose comme ça. Ce qui a très bien résumé Scott Barretta quand on l'a rencontré là-bas, il nous dit « Mais vous, ce qui est génial, c'est que vous êtes arrivé avec vos éléments culturels, plutôt que de chercher une caution et d'enregistrer avec des Américains, c'était vraiment pour amener votre culture et faire rencontrer ces deux cultures-là. »
Alors, parle-nous des musiciens que vous avez rencontrés là-bas. Il y a la relève du Hill Country Blues, il y a des musiciens héritiers aussi, des Raciniens. Quels sont les musiciens que vous avez rencontrés sur place?
Alors, on a invité Cédric Burnside, qui est le petit-fils de Harold Burnside. On a invité Charlie Thomas, la petite-fille d'Otta Turner, qui était un joueur de chiffres. Cameron Kimbrough, le petit-fils de Junior Kimbrough. Et puis, Pat Thomas, qui est le fils de Jameson Thomas, mais qui est dans une région un petit peu différente. L'idée, c'était de leur proposer de reprendre un morceau de leurs grands-parents ou leurs parents et aussi de faire des morceaux à eux, des morceaux d'aujourd'hui.
Tu parlais dans ton voyage que c'était pas une caution, c'était pas un voyage gratuit, bien évidemment, ça on l'a bien compris. La matrice de ton groupe, c'est la magie du Mississippi. Hein. Donc, est-ce que c'était un voyage qu'on peut qualifier de éthique ou de ethnique? Et si oui, pourquoi? Et en quoi?
Moi, j'aurais dit que c'était une aventure surtout,
ouais.
Parce qu'à organiser, c'est quand même un sacré truc d'ici. Moi, j'étais partie l'année d'avant pour faire un peu des repérages de lieux, tout ça, pour pouvoir essayer d'organiser ça. Ça a pris beaucoup de temps, en fait. Hein. Mmh. Éthique, ethnique, on peut mettre beaucoup de choses, en fait, dans ce qu'on a fait, parce que éthique, parce que effectivement, beaucoup de respect avec les musiciens, leur culture, et puis un vrai échange. Ils n'avaient jamais vu de vielle de leur vie, donc c'était super rigolo de les voir découvrir la vielle avec une fraîcheur qu'on n'a pas chez nous.
Bah, c'est la question que j'allais te poser. Quel effet ça a eu, la vielle à roue, pour les musiciens américains que tu as rencontrés?
Alors, quand même, depuis qu'on y est allé, il y a au moins une vielle dans le Mississippi.
D'accord, tu l'as laissée là-bas, donc, vous l'avez laissée.
Ouais. Non, c'est quelqu'un qui en a acheté une, ça fait des émules un peu. En fait, ce qui était super, c'est que ce que je disais, c'est qu'ils ne connaissaient pas cet instrument. Donc, ils ont été assez fascinés de découvrir l'instrument en lui-même, qui est assez joli. Et puis, le son que pouvait produire Gilles aussi, donc de manière acoustique d'abord. Et puis, une fois branché dans un petit ampli à lampe, je me souviens que Cédric, il était hyper fasciné, quoi. Il a filmé Gilles en train de jouer. Il dit, mais c'est incroyable cet instrument.
On parle de Cédric Burnside et de Gilles Chabenard, on est bien d'accord. Hein.
Et voilà, ouais, ouais. Ça, pardon. Et oui, il y avait une vraie fraîcheur, une curiosité et puis un bel engouement, en fait. Donc c'était vraiment c'était super rigolo.
Alors, il y a eu de l'engouement auprès des musiciens, mais pas seulement, parce qu'on peut parler du succès obtenu par le premier album auprès des médias, que ce soit aux États-Unis ou en France, d'ailleurs, hors des circuits blues habituels. Hein, il y a eu des médias généralistes qui se sont intéressés à votre musique. Comment est-ce que tu as reçu cette reconnaissance de ton travail? Tiens.
Avec pas mal de surprises, parce qu'en fait, quand on fait un disque, on pense pas forcément à ce qu'on va recevoir de la part de la presse. Nous, on est des artisans, en fait, on travaille sur des choses, on se pose des questions, on doute. Il y a toutes ces choses-là quand on est musicien, donc on s'attendait pas à ça. Donc on a pris ça avec beaucoup de bonheur et puis un peu de fierté aussi. Ça a été, je crois, vraiment un truc incroyable au niveau de l'écho que ça a eu, parce que, en fait, moi, je retourne souvent aux États-Unis et il y a régulièrement des gens qui viennent me voir, des fois quand je vais au Blues Music Awards, ou qui disent « Ah, mais tu sais, Muddy Curdy, merci d'avoir fait un album comme ça, c'est une vraie fraîcheur et en même temps toujours très lié aux racines. Mm-hmm. » Donc, on a signé avec le label Distone. Un label qui est situé sur Boston.
Ça, c'est pas rien. V-Stone, excuse-moi de te couper, c'est le genre de label dont on peut se dire, il n'y en a pas 50, hein, c'est le genre de label dont on peut se dire, s'ils sortent ce disque-là, c'est que c'est forcément un bon album. Il n'y a absolument rien à acheter chez V-Stone. On peut dire pareil chez Alligator, par exemple, mais il n'y a quand même pas 50 labels comme ça. Il y a des gens qui n'hésitent pas à faire des rencontres un peu, enfin, des patrons de labels, hein, qui n'hésitent pas à faire des rencontres un petit peu hasardeuses avec des résultats, on va dire, moyens. Là, chez V-Stone, il n'y a que du bon et il y a aussi vous, quoi. Donc vous êtes dedans.
Ouais,
hein.
Ça a été une super rencontre avec Richard Rosenblatt. On l'a rencontré au Blues Music Awards. On lui a montré une petite vidéo qu'on avait faite lors de nos enregistrements. Et il nous a dit, mais c'est génial, Gilles a sorti sa vielle dans le hall du Sheraton.
Carrément.
Pour lui montrer ce que c'était. Donc ça lui a beaucoup plu. Il en a parlé à Bob Margolin et Amy Bratt, qui sont les trois personnes qui ont ce label. Mmh. Et ils nous ont dit, non, on veut absolument signer avec vous sur ce disque. Donc ça, c'est parti comme ça. Ben, il y a eu une rencontre, on leur a fait écouter, ils ont adoré, et puis voilà, quoi.
J'ai une question. Tu sais qu'il y a des auditeurs également qui nous écoutent. On doit être trois ou quatre de l'autre côté du poste. Et il y a Ronan One Man Band, c'est un artiste breton que tu connais.
Oui, bien sûr, je connais Ronan.
Il te demande, Ronan, quelle est ta plus belle rencontre dans le Mississippi? Est-ce que c'est celle avec Richard Rosenblatt ou c'est avec un artiste en particulier?
Oui, il y a plein d'artistes, hein, honnêtement.
Il veut un best-of, hein, il veut le best one, quoi, le top 1.
Écoute, en fait, tous les invités, déjà, Cédric, ça a été des moments absolument géniaux qu'on a passé avec lui. On a même, Ronan, écoute, on a fait un truc extraordinaire, on a sorti un armadillo, comment dire en français, vous savez ces animaux là qui ont une carapace,
un tatou,
voilà. On a même sorti un tatou sous une maison en milieu de l'enregistrement. Pat Thomas aussi, j'aime beaucoup cet homme et tout ce qu'il représente. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont beaucoup touchée dans Mississippi, des gens qui ne sont pas forcément connus aussi. Il y a Marc Massi que j'ai rencontré récemment aussi, que j'adore. Il y a les Como Mamas, notamment Della Wright aussi, qui est devenue aussi une copine. Enfin, il y a beaucoup de gens.
Tous les gens que tu cites, ça peut aussi donner un bon coup de pied dans la fourmilière à ceux qui pensent que le Mississippi Blues c'était avant et qu'il ne se passe plus rien maintenant. Dan qui y était il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans tu étais dans le Mississippi.
Oui. Et c'est vrai que bon, c'est toujours on rencontre des musiciens un peu partout. Je veux dire, il suffit de passer de bar en bar ou même dans les rues pour rencontrer des musiciens. C'est toujours très vivant.
Oui, et puis dans les campagnes, en fait, on se rend compte que la musique, elle est vraiment très présente chez eux. Alors, il y a évidemment l'apport de l'église avec des gens qui apprennent la musique très jeunes parce qu'ils vont à la messe et qui jouent aussi dans les églises. Donc, elle est très présente grâce à ça. Puis dans les familles, au final, la musique est beaucoup plus présente dans la culture américaine. Les fêtes de Noël, les gens chantent, il y a toujours des instruments, il y a toujours un musicien dans la famille. Donc il y a des gens, en fait, il y a beaucoup de gens. Il y en a qui jouent pas de manière professionnelle parce que c'est difficile de vivre de la musique là-bas. Mais moi, les derniers voyages que j'ai fait, j'ai découvert des gens comme DeAndre Walker, qui fait partie de la Walker Family, qui a été signé aussi chez Dapton. Lui, c'est un jeune chanteur qui est fabuleux. J'espère qu'il pourra faire des choses aussi, et peut-être un jour venir en Europe, parce qu'il y a... Non, c'est... Le Mississippi, ça ne mourra jamais, la culture musicale, parce que ça fait vraiment partie de leur quotidien, en fait, leur vie.
On va écouter un petit peu de musique, tiens, et on va se retrouver juste après pour la suite de cette interview. Merci pour toute la passion que tu mets à répondre à toutes ces questions-là, en tout cas.
Avec plaisir.
On va écouter un extrait de Homecoming. Je donne pas le titre, on en parlera juste après.
Son of a man,
Voilà un extrait, un nouvel extrait de cet album Homecoming, qui est, je vous le rappelle, le disque du mois pour Sweet Home Chicago sur le 666. On est ensemble dans la 1105e émission. On interview avec Dan Zirotti en direct avec Tia Goodbell du groupe Muddy Gurdy. Tia, toujours avec nous ?
Toujours avec vous.
Et on vient d'entendre cette reprise de Sam Cooke. On aura l'occasion de parler de Sam Cooke dans quelques minutes, ainsi que d'autres artistes qui te tiennent à cœur et dont on écoutera un extrait de la discographie. Mais avant, peut-être une nouvelle question de Dan.
Merci pour le micro. Oui, lors des rencontres que tu as faites, je suppose que les musiciens américains ont déjà évoqué avec toi leurs origines, leurs ancêtres esclaves. Quel regard ont-ils encore sur ça ? Quels sentiments ont-ils encore sur leurs origines ?
Alors, on n'a pas vraiment évoqué leurs origines. Ce qu'il faut savoir, mais que tu sais évidemment, mais je dis pour les gens qui sont peut-être jamais allés là-bas, il y a une certaine retenue, et puis il y a de la part des Afro-Américains quand même, ils n'en parlent pas de manière très frontale. Il y a énormément de tensions dans le sud des États-Unis. Il y a des tensions entre les Blancs et les Noirs qui sont hyper palpables. Donc, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu à prendre avec des pincettes. Alors la musique enlève un peu toutes ces barrières, ce qui est déjà pas mal, mais on n'a pas parlé de l'esclavage avec eux. Moi j'ai parlé avec Cédric, on a pas mal parlé de son enfance. Donc Cédric Burnside, il a grandi avec toute sa famille dans une petite baraque sans eau, sans électricité, avec les toilettes en dehors de la maison, où ils étaient très nombreux dans un petit deux pièces. Et il me disait le plus dur, c'était quand même l'été, parce que le Mississippi fait vraiment très très chaud, très humide en été, donc sans climatisation, c'est assez difficile. Mais moi, ce qu'il m'a dit, Cédric, surtout, c'est on était pauvres, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais moi, je me sentais riche parce que il y avait la musique tout le temps, j'étais avec ma famille, les fins de journée, mon grand-père, il jouait, il y avait les voisins qui venaient, et je me suis jamais senti, pauvre, quoi. C'était vraiment son discours à lui.
Ouais, la richesse, c'est la famille et la musique, c'est ça?
Oui, vraiment, ouais. Et puis, je pense le bonheur d'être ensemble, je pense qu'il avait un lien particulier avec son grand-père aussi, Cédric, vraiment très fort, donc je pense que c'est lui qui a fait son éducation.
Et là, je sais que Rodan t'écoute parce que R.L. Burnside, ça fait partie de ses grosses influences à lui aussi. Hein,
ah,
Rodan.
C'est sûr.
Rodan, il n'a pas vu R.L. Et toi, tu l'as vu sur scène, R.L. Burnside ?
Non, malheureusement, je ne l'ai jamais vu, non.
J'ai l'impression d'être tout seul, moi, dans cette histoire, avoir vu R.L. Burnside, c'est fou.
Quelle chance.
C'est la question de génération, on va dire, effectivement. C'était en 1991, mais c'était en France quand même. Il est quand même venu en France de temps en temps, R.L. Burnside.
Il y a même des vidéos un peu pirates qui ont été faites en Belgique, notamment.
Ouais, très pirates, même, effectivement. Il y a une chose qu'on voulait te demander également par rapport à... un petit peu en écho à la question de tout à l'heure à propos de ta renommée, mais y compris dans les médias non blues, on va dire, c'est que vous avez enregistré, ça c'est important, en janvier 2020, vous avez enregistré pour la Bibliothèque du Congrès, pendant le festival Folk Alliance de la Nouvelle-Orléans. Ça veut dire que Muddy Gurdy va se retrouver avec Muddy Waters dans les archives à Washington. Ouais. Quel est ton sentiment par rapport à ça?
Je suis hyper touchée. Moi, j'ai l'impression qu'on est des tout petits éléments dans ces perles de la culture afro-américaine, la culture américaine.
Tu te rends compte, 80 ans après que Alan Lomax ait enregistré Muddy Waters, il y a Muddy Gurdy aussi, peut-être dans le rayon d'à côté, ou juste, juste dans la bobine d'après, je ne sais pas.
Ouais, c'est vraiment, c'est super. Moi, j'ai une distance aussi, parce que j'ai une réelle admiration pour les fondateurs aussi de ces musiques-là, donc je ne me mettrai jamais vraiment sur le même plan, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais je suis hyper contente parce que moi je suis contente de l'arrangement que j'ai fait du morceau qui se retrouve dans les archives. Et puis j'ai aussi beaucoup écouté. En fait, pour l'histoire, avant de choisir le titre qu'on allait faire pour la Bibliothèque du Congrès, j'ai dû écouter des centaines de milliers de titres pour choisir lequel nous allions prendre, pour finalement revenir sur un titre que je connais depuis des années. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y a, c'est une richesse. En plus, elles sont accessibles. Moi, je conseille aux auditeurs d'aller écouter. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Les archives sont accessibles. Est-ce qu'on peut savoir quel titre tu as choisi, tiens?
Oui, alors j'ai choisi un titre qui s'appelle « Another Man Down Gone ». Et c'est un morceau qu'avait enregistré d'ailleurs Lomax, qui à la base est un morceau a cappella. Et donc moi j'ai fait un arrangement pour notre trio et il nous avait demandé en fait de ne pas le jouer avant en public, de garder une espèce d'exclusivité pour ce titre. Donc on s'est retrouvé une dizaine de groupes à la Nouvelle-Orléans à présenter des morceaux qu'on avait choisis. On a fait des rencontres absolument géniales, notamment le guitariste de Richie Havens, Walter Parks, qui est un musicien incroyable. Donc c'était un moment très fort et on est super heureux et très touchés de bientôt nous retrouver dans ces archives-là, parce qu'il va y avoir de la vielle à roue dans les archives américaines.
Ouais, quelle classe. Franchement, on écoute un extrait de ça. Voilà, encore un homme parti. Le deux titres que tu as choisi pour la bibliothèque du Congrès, on l'a déjà écouté dans Sweet Home Chicago et on l'écoutera à nouveau en entier dans une prochaine émission. Mais là, avant qu'on attaque la partie ton album ou votre album proprement dit, et encore avant de parler des musiciens que tu as choisi, dont tu as choisi de nous parler, j'ai une question de Normand, parce qu'on est aujourd'hui le 8 mai, tiens. Est-ce que tu as un petit mot à réserver à nos amis américains? C'est eux qui nous ont perdu notre liberté il y a 76 ans, 1945.
Oui, mais je ne sais pas si ça doit être pareil pour vous quand vous rencontrez des Américains. La première chose, ils parlent beaucoup de ça, évidemment.
Ouais.
Et souvent, ils nous disent, moi, quand j'irai en France, je veux aller à Paris et puis en Normandie.
Ben oui, parce que la Normandie, je crois qu'après Paris, qu'on peut considérer aussi comme une région, je crois que c'est la région la plus connue de l'autre côté de l'Atlantique, à cause ou grâce à, je ne sais pas ce qu'il faut dire, 1944. Ouais. Ouais, effectivement. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, c'était avec Dom Ferrer, tiens, la semaine dernière. On en parlait à propos de Jean-Christophe Panico et Laurent Choubrac qui ont créé un super morceau qui s'appelle Omaha. Et puis, tu sais, ici en Normandie, on est très sensible à ça, le devoir de mémoire. Enfin voilà, le 8 mai, c'est quelque chose.
C'est normal.
Quoi. Et le 6 juin aussi, qui devrait être férié. Voilà, parenthèse fermée. On évoquait Sam Cooke et puis, y a Sam Cooke, il y a sa version originale quand même. Ça, c'est un truc absolument fabuleux. On est en 1960, tiens. T'étais pas né, hein, on est d'accord. et alors, par rapport aux autres musiciens que tu cites, j'ai l'impression que Sam Cooke, c'est le seul qui baigne le plus dans la soul, un petit peu le moins dans le blues racinien, on va dire. Qu'est-ce qui t'attire chez Sam Cooke particulièrement? Sa voix, son répertoire?
Ouais, tout, l'homme, sa voix, son répertoire, ce qu'il a amené aux Afro-Américains là-bas aussi, sa vie. C'est vrai, quand j'ai commencé à parler à Marco de Sam Cooke en lui disant je voudrais qu'on reprenne un morceau de lui, il me dit oulala, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et en fait, parce que je lui avais pas fait écouter mon arrangement.
Oui, voilà.
Donc ouais. Ça lui paraissait qu'en fait, quand je leur ai fait écouter l'arrangement et qu'on a commencé à travailler, ils m'ont fait avoir, c'est génial en fait. Parce qu'on a fait quelque chose de plus rural que Sam Cooke par rapport à ce qu'on entend là tout de suite. Et puis le thème, je veux dire, les chain gangs, c'est des choses qui se remettent en place, qui sont remises en place aujourd'hui. Moi, les thèmes des chansons m'importent énormément. En fait, j'ai pas envie de chanter des choses qui ne correspondent pas ou dont j'ai pas envie de parler, mais je choisis aussi les chansons en fonction de ce que ça raconte. Et pour moi, il y a quand même beaucoup de choses, et puis qui ont avec un reflet de l'actualité, avec les mouvements Black Lives Matter, mais je trouvais ça intéressant de faire un morceau comme celui-là.
Sam Cooke, un homme qui parle bien aux femmes. Enfin, je sais pas, Dan, c'est un artiste que tu apprécies aussi. Hein.
Oui, et puis il est très beau en plus. C'est vraiment dommage qu'il ait fini si tôt sa vie. Hein.
Et c'est brusquement.
Oui, c'est brusquement. J'en avais parlé aussi dans Moonshine, et j'adore sa voix aussi, j'adore tout. Sa musique.
C'est incroyable parce que quand il a commencé à chanter dans les Soul Stirrers, il avait peut-être 17 ans, il avait déjà une voix, c'était incroyable.
Oui, il aimait la pop aussi, hein. Il voulait faire une espèce de chemin de traverse entre le blues et la pop.
Oui, c'est quelqu'un d'assez précurseur qui aussi avait un côté aussi, vouloir ce côté indépendant, monter sa propre industrie, son propre label. Donc c'est quelqu'un qui gênait énormément parce qu'avec le succès qu'il avait, il touchait aussi les blancs. Donc ça, il a beaucoup dérangé. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur son décès, mais bon.
Oui.
J'espère que vous avez eu l'occasion de voir le documentaire.
Oui, tout à fait.
Il s'appelle Les deux vies de Sam Cooke, je crois.
On a vu quelque chose sur Arte il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai pas le souvenir exact. Il y a une artiste dont tu voulais nous parler. Jessie Mayenfield, dont j'ai choisi un titre qui s'appelle She Wolf, on est en 1981. Voilà, à l'époque où je crois un certain Gérard Herzhaft est allé la voir, c'était en 80 ou 81. Comment est-ce que tu as découvert Jessie Mayenfield, tiens?
Écoute, j'ai découvert il y a pas mal d'années sur ses disques et puis le personnage aussi. Et puis j'ai eu la chance de me retrouver dans le Mississippi chez quelqu'un qui l'a beaucoup connue et qui a passé beaucoup de temps avec elle et qui a ses guitares. Donc en fait, je me suis retrouvée à jouer sur sa guitare que personne n'avait touchée après sa mort.
Wow.
Changer ses cordes, m'en occuper. Sherman, donc mon ami à qui appartient ses guitares, quand je lui ai joué des morceaux sur le matériel de Jessie May, sur ses amplis et puis sa guitare, il m'a dit, mais pendant qu'il jouait, je l'ai senti venir. J'ai senti son esprit qui était là.
Carrément.
Ouais, c'était un chouette moment. J'aime beaucoup cette artiste parce que je trouve que c'est une femme assez singulière. Déjà, être une femme qui vivait seule dans Mississippi, dans son mobile home, qui jouait de la guitare, qui tournait, son tambourin là au pied, toujours avec son flingue, bien sûr, et son petit chien.
Ouais, ouais.
Ce personnage est incroyable. Alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai eu l'impression de rencontrer son esprit tellement de fois. Tu vois, là, je te parle, et en face de moi, j'ai un tableau qu'elle a peint, qu'un ami m'a donné aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connue, qui m'ont offert des choses à elle, en fait.
Mmh.
Et j'aime ce caractère un peu rude que je pense qu'elle avait. Elle a des origines aussi qui sont mixées avec les Indiens. Enfin, c'est vraiment très représentative, je pense, de cette région, si tu veux. Ouais.
Jessie Mayenfield, là. Un autre artiste, tu l'as évoqué tout à l'heure, Cedric Burnside. Ici, on l'entend dans un répertoire plutôt électrique avec Lightning Malcolm. Je ne sais pas s'ils jouent toujours ensemble. En tout cas, ils ont l'air de plus trop enregistrer ensemble. L'album, c'était Two Man Wrecking Crew. On est en 2008 chez Delta Groove. Mm-hmm. Cedric Burnside, c'est un peu ton alter ego. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... La rencontre a été vraiment, vraiment forte, quoi, non?
Oui, c'était super. Bah, en fait, c'est très naturel. Hein. Il est un petit peu plus âgé que moi, ça pourrait être mon grand frère, on peut dire, mais musicalement, tout de suite, on s'est super bien trouvés. Il y a un morceau qui a été perdu sur un disque dur qu'on avait enregistré où on chantait tous les deux, un truc hyper sympa où on a trop rigolé en l'enregistrant. Mais ouais, ça a été une super rencontre et puis on est toujours très contents de se retrouver des fois sur des concerts où on joue ensemble. Il a aussi fait un truc qui est très sympa, c'est qu'il a parlé de moi à Joe Louis Walker qui cherchait une guitare et chanteuse pour l'amener sur Mystic Island pour un festival. Et je sais que c'est Cédric qui lui a parlé de moi en lui disant il y a une super guitariste chanteuse en France, tu devrais la contacter. Et puis Joe Le Smoker m'a appelé ensuite. Donc Cédric, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui a un vrai soleil en fait. Il est très solaire, il aime la musique, il aime les gens, il a une conscience de d'où il vient aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui ne choquera jamais la grosse tête.
Ouais, ouais, ouais.
Il est très humain et puis il aime les gens. Et il est passionné par son métier, quoi.
Et le titre qu'on entend, c'est Harold Burnside, justement. Cédric Burnside, donc, et puis quatrième artiste que tu nous proposes d'écouter, c'est Monsieur Révérend John Wilkins. Un style un petit peu plus traditionnel encore, peut-être un peu plus proche des pionniers, des créateurs, je ne sais pas, on aurait pu être en 1934 là par exemple, mais c'est un enregistrement de 2020.
Et oui, il est décédé peu de temps après malheureusement.
Mmh.
J'ai voulu parler de lui parce que quand je vais dans Mississippi, je vais être quasiment tout le temps à Como, qui est une petite ville qui est assez connue puisqu'elle a vu quand même des gens comme Fred McDowell qui vivait là-bas. Et en fait, il y a une petite église qui s'appelle Hunter's Chapel, où je vais à chaque fois à la messe, en fait, les dimanches. Ça dure très longtemps, mais en fait, tu vois pas le temps passer parce que c'est tellement puissant. Et c'est l'église du révérend qu'on est en train d'écouter, là.
D'accord.
Donc, il y a Fred McDowell enregistré dans cette église. Elle a une vraie histoire. Et puis aussi, John Wilkins, son père, a écrit un morceau qui s'appelle Prodigal Son, qu'ont repris les Rolling Stones. Alors,
exact,
il y a,
ouais.
Évidemment, voilà, c'est aussi par ça que je voulais en parler, parce que pour moi, l'église fait vraiment partie de le gospel fait vraiment partie du blues. Quand on va dans les petites églises à la campagne et qu'on voit la manière dont le preacher s'adresse à l'assemblée, comment les gens répondent, comment ils se sentent libres, comment la musique est jouée. On comprend aussi beaucoup de choses par rapport au blues et au jazz. On voit très bien les origines, en fait, de ces musiques-là.
Tiens, il y a Dan qui boit tes paroles juste à côté. Hein, qui...
Oui, tiens, si je te dis, une chanteuse guitariste de blues, un percussionniste spécialiste des rythmes latinos, un joueur de viol à roue, expert des musiques traditionnelles du centre de la France, comment est née la formation Modigordi et la rencontre entre Marco Glomo et Gilles Chabonat? Que t'inspirent ces trois personnages ensemble, on va dire?
Oui, alors je vais essayer de pas faire trop long. Marc Glomo avait monté un projet il y a pas mal d'années sur les musiques du centre France et les musiques vénézuéliennes, parce qu'il travaillait avec un batteur vénézuélien. Et donc, il cherchait un joueur de vielle. On dit un vielleux, je crois, en langage trad. Il y avait vraiment des joueurs de vielle très, on va dire, phares en France. Il y a Valentin Clastrier, qui est un petit peu âgé. Il y a Gilles Chabonat. Et puis, ils sont deux, trois, en fait, vraiment un peu les précurseurs de la vielle, on va dire, moderne. Et donc, il a travaillé avec Gilles sur ce projet, magnifique projet qui s'appelle Racine. Et moi, j'avais déjà travaillé auparavant avec Marc sur un duo blues où on a commencé un peu à aborder blues, percussion, avec un son un petit peu qu'on essayait de s'approprier, on va dire. Et on s'est revus, il me dit, bah, écoute, j'aimerais bien qu'on reprenne le duo, mais en rajoutant une troisième personne. Et il me dit, avec une vielle à roue. Ah, je lui dis, ah non, c'est pas possible, je déteste la vielle à roue. Il m'a présenté Gilles. Il m'a dit, attends, je vais te présenter Gilles. Donc, il m'a présenté Gilles, qui m'a fait écouter, en fait, la vielle à roue. En fait, c'était des préjugés que j'avais, hein, bien sûr. Hein. Ah, la vielle, ce son crin-crin. Sauf qu'en fait, la vielle à roue, c'est pas du tout ça. Gilles Chabonat, c'est un des plus grands spécialistes de la vielle à roue. Donc, il est capable de. Il m'a montré un peu les différents chants, les différents sons. Et en fait, j'ai été fascinée. J'ai fait, mais c'est incroyable cet instrument. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. On va commencer à travailler ensemble. On a beaucoup cherché parce qu'en fait, un trio vielle, percussion, guitare, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on trouve chacun notre place. On n'a pas de basse. Donc, il y avait des choses où il fallait pas mal chercher. Et au fur et à mesure du temps, on a monté un set d'instruments en fonction aussi de ce qu'on cherchait. Donc, au départ, Marco, il jouait sur une calebasse. Il avait un set de percussion tel. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. Il a fait évoluer son set de percus. Gilles, on l'a branché dans un petit ampli à lampe. Il a un son de camion. Moi, j'ai pas spécialement changé les guitares, à part que j'ai utilisé un peu plus d'open tuning. Et voilà, on en est arrivé là au bout de quelques années.
Voilà, ben l'histoire, la rencontre entre vous, Modigordi, ça rejoint, ça recoupe une question d'un auditeur, un garçon que je connais bien, tiens, Raphaël Roumi, qui demande comment et sur quels critères est-ce que tu choisis tes musiciens? Est-ce qu'il y a des critères particuliers?
Alors, pour le trio, pour Modigordi, je n'ai pas spécialement choisi, c'est-à-dire que c'est vraiment une vraie rencontre. On ne vient pas du tout des mêmes milieux, on a des personnalités très différentes. Donc, c'est pas vraiment j'ai pas choisi, puisque on a décidé de monter ce projet ensemble. Mmh. Après, choisir des musiciens, il y a toujours les histoires de rencontres, d'exigences musicales, parce que c'est très important, en fait. Moi, j'ai une vraie exigence musicale envers moi-même, et j'ai la même envers les autres. Et de sérieux, de travail, de bien se comporter quand on est en tournée, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de choses, en fait, mais là, ça a été vraiment, pour Modigordi, ça n'a pas été un choix pour moi de dire, tiens, je vais bosser avec Gilles Chabonat, voilà, puisque ouais. Je ne le connaissais pas. Mmh.
Alors, on peut parler plus précisément de l'album maintenant. Tiens, l'album Homecoming, donc retour à la maison. Est-ce qu'on peut parler plus précisément des conditions de l'enregistrement, retour à la maison, en écho à l'album précédent qui avait été enregistré aux États-Unis? C'était là un enregistrement itinérant à quelques kilomètres de chez toi, Clermont-Ferrand, au calme de la campagne. Alors, dans une chapelle, dans une salle de bal, dans une grange, au front d'un cratère volcanique même. Alors, pourquoi cette formule nomade? Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement et qu'est-ce que ça a impliqué techniquement?
Alors en fait, on a fait la même formule que ce qu'on a fait dans Mississippi, puisqu'on n'avait pas enregistré dans des studios. Bon, l'idée, c'est d'aller dans des lieux qui sont reliés à la ruralité, aux gens qui vivent là-bas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des repérages après le premier déconfinement. On s'est fait un 360 degrés à côté de chez nous, à une demi-heure de chez nous, en train de repérer des lieux qui pouvaient être intéressants. On avait déjà un petit peu choisi des morceaux. L'idée, c'est d'aller dans certains endroits, de faire des chansons qui sont reliées à ces endroits et d'y ajouter les invités aussi. Alors, c'est une vraie aventure, hein, parce que physiquement, ça peut parfois être difficile. Il y a eu, pour aller dans une des chapelles, on a dû marcher bien trois quarts d'heure, une heure. On a la chance de travailler avec un super ingénieur du son qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes. Et il a aussi fait des choses comme ça sur le terrain, notamment avec Gassandji. Donc lui, il adore en fait. Il voit un lieu, rien n'est un problème pour lui, donc ça c'est génial. Il se sert aussi beaucoup de l'acoustique des endroits. Donc en fait, il y a eu des moments où c'était assez difficile, notamment sur certains extérieurs où on avait énormément de vent. Moi, je me disais, mais il va rien pouvoir faire parce que le vent dans les micros, tu peux rien sortir.
Oui.
Mais ce mec est un génie, Pierre Bianchi. Il a réussi à faire un peu des miracles. Parce que quand je dis qu'il y avait du vent, c'est-à-dire que c'était des rafales. Moi, j'arrivais à peine à tenir en face du micro. Donc, il y a eu des moments où c'était assez dur, mais on se laisse imprégner par les lieux. Alors, c'est pas facile parce que, par exemple, moi, j'avais pas de retour voix, donc j'ai fait des morceaux comme Black Madonna dans la chapelle où j'entendais pas ma voix, quoi. Clairement, c'était assez difficile, mais l'idée, c'est de garder les morceaux comme ils sont, de pas faire de re-re, pas de retouches. Ouais. Alors, et puis de se laisser imprégner par des lieux aussi qui sont hyper forts, quoi.
Est-ce que parfois il a fallu reprendre les enregistrements ou tout a été fait comme ça en live?
Non,
sur le moment?
Tout a été fait en live, tout. Donc on préfère tout garder, même si, tu vois, par exemple, s'il y a un petit, entre guillemets, un petit défaut, si la teneur du morceau dans son ensemble est bien, on assume le fait qu'il y a peut-être de quelques erreurs, mais en fait, je pense que c'est ce qui plaît aux gens aussi. C'est le côté, on a l'impression quand on écoute le disque que les musiciens ils sont à côté de nous. Et puis faire des re-re sur ce type d'enregistrement, je pense que ça fonctionnerait pas.
Ça
vraiment,
avait peut-être pas beaucoup de sens effectivement, le re-recording du coup. Avec tout ce que tu nous dis, avec tout ce qu'on apprend par rapport aux conditions d'enregistrement, on peut parler tout à l'heure des invités, mais il y a une question quand même sur ta voix.
Oui, Dan. Parce que justement, sachant les conditions d'enregistrement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ta voix dans le CD et ta voix semble parfois être un instrument de plus. Ta voix adhère totalement et c'est en osmose avec les instruments. Comment est-ce que ça a été possible de le faire justement dans ces conditions-là?
Oui, alors c'est moi sur le coup, en fait, tu sais, t'es dans le travail, tu te dis faut le faire, donc je me suis pas vraiment rendu compte, et puis c'était un peu éprouvant des fois physiquement, parce qu'il y a des morceaux, il fallait qu'on les fasse tourner plusieurs fois avant de les enregistrer, parce qu'on les avait jamais joués, et des fois c'est physiquement, c'est un peu difficile, mais c'est les musiciens après l'enregistrement qui m'ont dit quand même, Tia, c'est vraiment super, t'as enregistré dans des conditions, il y a plein de chanteuses qui auraient refusé de faire un disque comme ça, donc moi j'ai fait le truc parce qu'il fallait le faire, en se mettant la pression à soi-même, hein, mais la bonne pression. Et aussi, comme je disais, le fait de bosser avec quelqu'un comme Pierre Bianchi, qui connaît bien ma voix, parce que c'est le troisième album que je fais avec lui, il sait exactement comment bien la prendre pour qu'elle soit au plus naturelle possible. Il y a aussi l'aspect joué en même temps que le chant, tout ça en live, sur des morceaux que t'as jamais vraiment joué avant. C'est vrai que c'est pas évident. Mais
est-ce que parfois tu as été en transe, hein? Parce que des fois ça me fait penser un petit peu ça, à cette transe parfois.
Ah, il y a eu des morceaux où je t'avoue que il y a eu des morceaux, déjà j'ai eu du mal à les chanter sans être rempli d'émotions, comme Strange Fruit, où ça a été déjà les répétitions, j'avais du mal à retenir mes larmes. Mmh. Mais c'est vrai que une fois que tu es dans des environnements comme au fond d'un cratère d'un volcan, tu vois, la nuit tombée avec des vaches autour, en plus, il y a des choses un peu... moi, je suis très sensible à la nature. Donc, la terre d'où je viens, pour moi, c'est fort ici. Les volcans, ils sont éteints, mais c'est fort quand même. Mmh. Donc, comme tu dis, ouais, je pense qu'il y a une émotion qui est... Tu te laisses prendre dans quelque chose. Quand on a enregistré Black Madonna dans l'église du 12e siècle... Ah, c'est quand même, t'es dans un endroit qui date d'il y a tellement longtemps, qui a vu passer tellement de choses. C'est un petit peu un petit bijou d'être dans un endroit perdu comme ça. Et c'est magnifique. Et c'est vrai que ça interpénètre la teneur des morceaux, en fait.
Ben oui, alors tiens, on parle de votre album, de votre musique, comme d'une musique pays en créole, hein, PEI, on dit ça, musique pays, des territoires qui s'entrechoquent, des gens qui se rencontrent, des coutumes qui se croisent, des cultures qui se mêlent. Et qui se reconnaissent dans l'assemblage. La culture semble être toujours plurielle, mais selon toi, tiens, est-elle forcément toujours l'addition ou le mixage de plusieurs origines, de plusieurs traditions, de plusieurs coutumes ?
Moi, je pense que oui. Alors, évidemment, c'est difficile de répondre...
Ah ben, on te demande justement ce que tu en penses, toi, évidemment.
Ouais, je pense que oui, parce que...
Ouais, ouais.
Essayons de trouver quelqu'un qui n'a jamais écouté ou vu autre chose que des choses de sa simple origine. Je pense que ça n'existe pas aujourd'hui. C'est comme dire la race pure blanche ou la race pure tel truc. Ça n'existe pas. Non, je pense qu'on est tous influencés par ce qui nous entoure, les gens qu'on croise, ce qu'on écoute à la radio, ce qu'on voit à la télé. Donc... c'est vrai que oui, la créolité, je pense qu'elle a oui, c'est un peu partout en fait.
Mmh. Il y a des invités, bien sûr, sur ce disque, on les a passés en filigrane tout à l'heure. On peut citer leurs noms, Eric et Didier Champion, les musiciens et les danseurs de bourrée, les Braillots, et également Maxence Latrémolière, qui est un chanteur de briolage. On va en parler. Louis-Jacques à la cornemuse, et puis Guillaume Vargos à l'harmonica. À propos du briolage. Pour les gens qui, j'ai envie de dire, qui sont pas tout à fait au fait des traditions auvergnates, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors moi, j'ai découvert aussi il y a pas très longtemps. En fait, le briolage, c'est le fait que, donc c'est ce que chantaient les paysans quand ils labouraient leur champ avec leurs bœufs. C'était comme un chant d'encouragement pour donner la force à l'animal de travailler la terre avec lui. Et c'est un chant qui est très particulier. Moi, je connaissais pas, mais Gilles nous a fait écouter des chanteurs de briolage. Il y a des fois, on sait même pas que ça peut être du centre de la France, parce que c'est une forme de musique qui existe au Japon, au Maghreb, aux Antilles. Et c'était une manière d'encourager la bête, en fait, l'animal, à travailler avec l'homme. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui est assez olé, quoi. Enfin, qui est vraiment très... C'est pas une manière de chanter... comme on pourrait chanter une petite chanson ou une berceuse ou quelque chose comme ça. C'est un chant de fonction, mais vraiment dans les champs, à l'air libre.
C'est une scansion, en fait.
Olé, quoi.
C'est ce qu'on appelle une scansion. C'est scandé.
Exactement, voilà.
On a encore deux, trois dernières questions. On est un petit peu pressé par le temps. Dan, à toi, peut-être ?
Oui, alors, je voulais savoir, est-ce que c'est difficile de se renouveler ? N'est-on pas bloqué à un moment par l'originalité des instruments employés, hein, comme la vielle, qui est un instrument hors du temps, hein. Comment est-on capable de s'adapter la vielle, comment est-elle capable de s'adapter à différents styles de musique ?
Alors, effectivement, c'est un instrument qui est bien particulier, mais qui date quand même du Moyen-Âge, donc il a traversé beaucoup d'époques et je pense qu'il a su se renouveler. C'est souvent l'instrumentiste qui va faire que ça va être intéressant, parce qu'il y a l'instrument, on est d'accord, mais il y a Gilles Chabnat aussi derrière. Gilles, en fait, il a joué de la musique traditionnelle, mais depuis tout jeune, il essayait aussi de jouer ce qu'il écoutait à la radio, ce qu'il aimait bien sur son instrument. Il a fait beaucoup évoluer cet instrument. Il a joué avec beaucoup de gens, hein. Il a été invité par Rufus Wainwright, il a joué avec Boy George, Sting, tout un tas de gens, des gens aussi de la variété française. Donc, il sait aussi beaucoup s'adapter, évidemment, aux gens avec qui il travaille. Et puis, là, il vient de se faire une nouvelle vielle pour le projet, qui lui a rajouté quasiment plus d'une octave, je crois, dans les graves. Donc c'est quelqu'un aussi qui est quand même dans la recherche, qui est un très très bon technicien, qui aussi donne des stages un peu partout, qui a formé pas mal de jeunes. Et c'est un instrument, comme beaucoup d'instruments anciens, dont les jeunes se réapproprient en fait. En général, on apprend à l'école, tout ça, ou chez les Braillots par exemple. Et puis après, comme ce qu'a fait Louis-Jacques avec la cabrette et la cornemuse, Louis-Jacques, il est jeune, il joue dans un groupe qui s'appelle Super Parquet, ben, il prend son instrument, il prend un gros ampli, il met des pédales d'effet, il essaie des choses, et aujourd'hui, il fait un style qui n'existait pas avant, en fait. Je crois que ça vient vraiment des personnes...
Oui, voilà, les instruments, pour être anciens, ben, on peut parler de la guitare qui date de plus de deux siècles, voilà, il y a des évolutions qui se font à travers les styles, bien sûr, donc se renouveler, c'est pas un problème, ça, c'est ta réponse. Deux petites questions très rapides, vraiment, tiens, si tu peux... En deux mots, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur non averti pour lui permettre d'écouter votre disque avec curiosité et avec plaisir ?
Alors déjà, c'est pas un disque de musique traditionnelle du Centre France, parce que moi, je connais pas bien toutes ces musiques-là, donc je suis extrêmement novice. C'est un disque qui va les amener en voyage, et si on se laisse porter, on se posera pas la question de savoir... est-ce que c'est du blues ? Est-ce que c'est de la musique rurale Centre France ? C'est un disque qui va les faire voyager parce que, comme on disait tout à l'heure, on a pris l'environnement tel qu'il était. Donc, c'est-à-dire que il y a aussi un peu les sons de la nature, comme ce qu'on avait fait dans le Mississippi. Donc, s'ils veulent faire un voyage dans cette période bien difficile où on est tous un peu enfermés, ça peut être l'occasion de se laisser porter avec des chansons qui sont déjà connues et puis des compositions.
Le voyage, voilà, c'est le thème de la toute dernière question posée par Dan pour toi, Tia.
Oui, alors que faut-il vous souhaiter pour l'avenir, à court, à moyen et à long terme ?
Alors nous, on a de la chance parce que au niveau presse, on a beaucoup de choses qui sortent, donc ce qui fait que le projet est connu aussi, se fait connaître par des gens qui ne connaissaient pas forcément auparavant. Ça se passe plutôt bien au niveau de la sortie d'album. On va travailler avec un booker, donc il y a des dates de concert qui se mettent en place. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse faire de la scène ce qu'on aime en présentant les nouveaux morceaux.
Bien sûr.
Et puis faire les voyages qu'on n'a pas pu faire, qui ont été annulés à cause du Covid, comme le Canada, l'Australie. On a eu vraiment des belles perspectives, donc on espère pouvoir enfin se remettre à tourner comme tous les musiciens. C'est un peu ce qui nous manque à tous, quoi.
Merci Tia, merci beaucoup.
Merci,
merci pour tout ça. Merci, à très bientôt sur la route.
À bientôt.
Au revoir Tia, merci.
Au revoir.
Un nouvel et dernier extrait de cet album Homecoming de Muddy Gurdy. On y reviendra bien sûr au cours des prochaines émissions dans Sweet Home Chicago, puisque c'est le disque du mois. Et il nous reste juste le temps de remercier à nouveau Tia pour cette interview. Et puis Dan, on va se retrouver dans quelques minutes pour le numéro 10 de Moonshine Blues. Je reste ici à mon poste aux manettes. Et juste le temps de vous présenter le dernier disque pour ce 1105e Sweet Home Chicago. Il s'agit de l'année 1971, l'album de B.B. King. Voici une version live que vous allez découvrir tout de suite avec ce Swizz Gone. Je vous propose la version du live in Cook County Jail. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec Ronan et Marco, Ronan One Man Band et Marco Ballan en différé. Et puis ensuite pour le live, le 22 mai prochain. A tout à l'heure dans quelques minutes, Moonshine Blues. Salut, bye bye.